Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Philippe Séguin, discours pour la France. Philippe Séguin, ancien ministre, maire d'Épinal, député, président de l'Assemblée nationale, premier président de la Cour des comptes, est un fervent partisan du non au traité de Maastricht. C'est cet argumentaire qu'il défend dans « Discours pour la France » sorti aux éditions Grasset en 1992. Extrait de la conclusion intitulée « Se déterminer », page 111 et suivante. Si j'ai déposé cette exception d'irrecevabilité, c'est parce que j'ai le sentiment que Maastricht et ses conséquences sont à prendre ou à laisser. Une fois ouverte la discussion sur le texte qui nous est soumis, le piège sera refermé. Nous serons engagés dans une logique dont nous ne pourrons plus nous dégager. Le traité, nous le savons tous, n'est pas amendable. Monsieur Mitterrand a été particulièrement clair à ce sujet le 1er mai. Nulle réserve portant sur le cœur même du traité ne pourrait être opposable aux autres co-contractants. Quant à la voie de la modification du texte constitutionnel, elle est sans issue du fait de la dérive vers la suprématie du droit communautaire. Nous ne disposerons d'aucune garantie en cas de contradiction entre le traité et la Constitution. D'ailleurs, l'obligation de débattre à nouveau de la monnaie unique ne pourrait figurer ni dans l'un ni dans l'autre et serait de nul effet. De nul effet aussi l'obligation pour le gouvernement français de s'expliquer devant l'Assemblée avant d'aller se lier les mains à Bruxelles. Quelle en serait la sanction ? Quant au principe de la subsidiarité censé empêcher tout empiètement communautaire sur la législation nationale, en rappelant tout à l'heure sa nature subjective, j'en ai par avance limité la portée. D'ailleurs, tous les règlements et de nombreuses directives s'appliquent sans passer devant le Parlement, et pour tous ces textes, la saisine du Conseil constitutionnel est impossible. Si la maîtrise de notre politique en matière de visa pouvait être prévue dans la Constitution, elle demeurerait absente du traité. Alors, comment les juges interpréteraient-ils cette contradiction ? Quant au droit de vote des étrangers, je n'en parle même plus puisque j'ai déjà eu l'occasion de démontrer qu'en la matière, on confondait l'accessoire et l'essentiel. Il n'y a donc, à ce stade, aucune garantie à attendre d'un quelconque amendement du projet de loi. Il y a encore moins d'assurance à attendre de l'usure du temps. Ce serait d'ailleurs une bien curieuse démarche que de nous en remettre à la survenance d'hypothétiques catastrophes dans les années qui viennent pour sortir de ce piège dans lequel nous nous serions nous-mêmes enfermés. Il est donc vain de chercher de subtiles esquives. Il faut se déterminer sans détour. Il faut se déterminer en pensant aux droits de notre peuple. C'est à lui de statuer. Voter l'exception d'irrecevabilité, c'est proclamer que nous nous refusons à nous substituer à lui pour décider ce qui relève de lui et de lui seul. Il faut se déterminer en pensant à la France. Le 24 novembre 1953, à cette même tribune, Pierre Mendès France s'exprimait en ces termes. « On parle maintenant souvent de choix. J'ai fait le mien. Je choisis l'Europe, mais je veux les conditions de son succès, qui sont aussi les conditions du renouveau de la France. Ce qui trouble le débat, c'est qu'une fois encore, on nous propose séparément un but dont nous sentons la valeur et la grandeur, mais dont nous redoutons de ne pas voir réunies les conditions de son succès. À 40 ans de distance, le problème ne se pose pas en termes radicalement différents. L'avenir de la France ne dépend pas seulement du succès de l'Europe, mais l'avenir de l'Europe, à ce moment crucial de son histoire, passe certainement par la résurrection de la France. En entravant la liberté d'agir de la France, en étouffant son génie, en la contraignant à renoncer un peu plus à elle-même, en la coulant dans le moule communautaire, on rendrait un bien mauvais service à l'Europe. Car la République française pourrait être l'âme et le modèle de cette Europe nouvelle, aujourd'hui aspirée par le vide, et qui hésite entre l'espoir et l'angoisse, entre le goût de la liberté et la peur du désordre, la fraternité et l'exclusion. En votant l'exception d'irrecevabilité, nous commencerons à travailler à rendre aux Français un peu de cette fierté mystérieuse dont, pour l'heure, ils ne savent qu'une chose, comme le disait André Malraux aux combattants des maquis, c'est qu'à leurs yeux, la France l'a perdue. Il faut se déterminer enfin, en fonction de l'Europe que nous voulons. En votant l'exception d'irrecevabilité, nous ne signifions pas notre congé, nous exprimons la volonté de construire la seule Europe qui vaille. En 1958, le général de Gaulle arriva au pouvoir au moment même où, après une décennie d'incantations européennes, la 4e République était en passe de solliciter de nos partenaires le bénéfice de la clause de sauvegarde, différant l'entrée de la France dans le marché commun. On raconte que Jacques Chaban-Delmas, missionné pour se faire l'écho des inquiétudes de tous ceux qui s'étaient persuadés que le traité de Rome était condamné, s'entendit répondre par de Gaulle « Nous entrerons comme convenu dans le marché commun. Nous y entrerons, oui, mais debout. » Et de fait, le redressement national que les élites dirigeantes d'alors ne croyaient plus possible permit à la France de devenir le moteur de l'Europe. La question et la réponse n'ont pas varié. Oui, nous voulons l'Europe, mais debout.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.